48. 16h01. Julot était sous le charme. Dès que Layli Mal était entrée dans le commissariat de Port-de-Bouc et qu'elle s'était avancée face aux trois flics, telle une comédienne un peu impressionnée mais sûre de son talent et forte de tout ce qu'elle avait enduré, Julot l'avait aimée. Rien à voir avec un coup de foudre. Layli Mal aurait pu être sa mère, mais il émanait de cette femme une énergie insubmersible, une résilience, pour désigner sa volonté par un mot savant, comme ces fourmis qui poursuivent leur chemin quoi qu'il arrive, qui contournent l'obstacle, se rallongent la route, mais parviennent toujours à destination, même en portant une charge plus lourde qu'elles. Une fourmi qui n'a pas renoncé à être jolie, à se parfumer de miel et à se colorer d'un pétale de prime vert. Les couleurs qu'elle portait, le mauve aux yeux, les perles rouges dans ses cheveux, l'orange mandarine de sa tunique, semblaient autant de gris-gris contre le gris de sa vie. Ils étaient trois à l'interroger. Pétard, Julot et le commandant Tony Frediani, un flic qui connaissait bien le milieu marseillais et en particulier les réseaux mafieux liés à l'immigration. Le juge Madelin avait insisté pour qu'il assiste à l'entretien. Depuis la découverte d'un second cadavre ce matin, l'affaire Valioni-Courtois avait pris une dimension d'affaire d'État. Les initiatives fusaient de tous les côtés et il faudrait quelques heures avant que les autorités, le ministère, la DCPJ, calme le jeu et précise les responsabilités. Layli s'était assise face aux trois policiers. « Je suis en situation régulière », commença-t-elle par préciser. « J'ai un titre de résident de 10 ans, j'ai un contrat de travail, j'ai… » Pétard la coupa sans élever la voix.
« Nous savons, Madame Mal, nous savons. »
Julot confirmait. Il avait lu rapidement le dossier constitué sur Layli Mal. Elle s'était certes retrouvée en situation clandestine pendant quelques années, après son arrivée en France, mais avait quasiment sans arrêt travaillé, et même cotisé. Julot n'arrivait toujours pas à comprendre comment des clandestins sans papier, expulsables à chaque instant, pouvaient néanmoins se faire embaucher légalement et payer des impôts. Layli avait été régularisée il y a 3 ans, travaillait depuis, venait de décrocher un CDI, un parcours exemplaire.
Vous avez apporté des photos de votre fille ?
Demanda le commandant Velika. Pendant que Layli fouillait dans son grand sac à bandoulière, Julot laissa ses pensées vagabonder. Il avait épluché la page Facebook de Falline 95. Comme celle de Bambi 13, le site de Falline 95 contenait quelques photos suggestives, mais aucune de son visage. Cependant, à la différence de l'album de Bambi 13, tous les clichés de Falline 95 étaient pris dans la région marseillaise, sur la plage de l'Estac, face aux îles du Frioul, près des Calanques des Goudes, à la piscine municipale de la Pointe-Rouge. La méthode pour séduire Jean-Loup Courtois demeurait cependant la même. Une parade amoureuse virtuelle désormais banale pour des jeunes filles qui se savent mignonnes. Photos en maillot, jeux d'ombre sur les courbes d'une silhouette dénudée, gros plans sur des détails anatomiques sexy. Falline 95 et Bambi 13 semblaient aussi jolies l'une que l'autre. Deux corps jumeaux, métis et juvéniles. Julot, comme Pétard, avait joué plus d'une heure au jeu des 7 différences, sans trouver. Tout laissait penser que Bambi 13 et Falline 95 étaient une seule et même fille, sans certitude. Les photos avaient été envoyées au labo. Julot ignorait si des informaticiens, à partir de clichés flous ou surexposés pris avec un smartphone, pouvaient définir la gémellité d'un grain de peau, calculer la taille exacte d'un bassin, la longueur d'une cuisse ou l'asymptote de la courbe d'une poitrine. Et même s'ils y parvenaient, rien ne prouvait que les photos sur Facebook n'avaient pas été photoshopées. N'importe qui pouvait trafiquer une image aujourd'hui. Pendant que le lieutenant Flores se perdait dans ses pensées, Layli Mal avait fait circuler quelques photos de sa fille. En contraste étrange avec celles de Bambi 13 et Falline 95, les images de Bambi Mal représentaient une jeune fille au naturel, à peine maquillée, basket, jean et pull ample. Pétard et Tony demeurèrent un long moment à examiner les photos avant de les faire tourner vers Julot. Le lieutenant Flores avait gravé dans sa mémoire le portrait flou de la caméra de surveillance du Red Corner, cette fille au visage en partie masqué par son voile imprimé de chouette,
deux yeux, une bouche. Il fut submergé par une première intuition, une évidence qui s'imposait. C'était elle. Bambi Mal était la fille filmée par la caméra de surveillance. Même profondeur dans l'iris des yeux, même regard de défi doublé d'une indicible mélancolie. Ce regard dont on tomberait si facilement amoureux. C'était elle. Julot continua de détailler les trois photos apportées par Leïli Mal. Au fur et à mesure qu'il s'attardait, le doute lentement naissait. Comment être certain d'une ressemblance presque frappante, mais qui ne repose que sur un regard? Pas même la forme d'un nez ou d'un visage, trop imprécise sur l'image vidéo. Comment être certain qu'il ne s'agissait pas d'une illusion, d'un jeu de maquillage, d'une imitation? Pétard ne laissait rien paraître non plus. Julot se souvenait des heures passées par son supérieur à comparer cette image trouble avec celle de toutes les prostituées de la ville, sans qu'aucune corresponde. Le commandant était-il parvenu à la même estimation? C'était elle, Bambi Mal. Julot en était certain à 80%, voire 90%. Mais ça ne constituait toujours pas une preuve formelle. Et ça résolvait encore moins la question initiale. Comment cette fille de Zup pouvait-elle être cette Bambi 13 qui parcourait le monde? Pétard reprit la parole. Il s'exprimait doucement, comme s'il s'excusait d'importuner Leïli Mal. Ça lui ressemblait peu. La présence de Tony Frediani l'impressionnait peut-être.
Si vous le voulez bien, nous allons conserver ces photos de votre fille. Nous avons essayé de la contacter au numéro de portable que vous nous avez laissé depuis ce matin, sans aucune réponse. Madame Mal, quand avez-vous vu Bambi pour la dernière fois?
Leïli répondit sans aucune hésitation. Hier soir, à 19h30, entre 19h30 et 20h pour être exact. La précision de la réponse cueillit les trois flics à froid. Tout comme ce qu'elle impliquait d'incohérence en termes d'emploi du temps. Si Leïli Mal mentait, elle le faisait avec un aplomb déconcertant.
Madame Mal, insista Pétard, comment pouvez-vous être si précise?
Ma fille a dîné avec moi. Nous dînons tous les soirs à 7h30. Commandant, venons-en au fait. De quoi ma fille est-elle accusée?
Les policiers se regardèrent. Pétard prit la décision. Sans un mot, il ouvrit les dossiers Valioni et Courtois, puis les fit glisser vers Leïli. Ils contenaient principalement des photos des deux scènes de crime, les corps vidés de leur sang, ainsi que des portraits des deux victimes. Une façon directe et brutale de faire comprendre à cette mère de quoi sa fille était accusée. Julot se concentra sur chaque geste de Leïli, chaque expression de son visage. Quand elle ouvrit le dossier, quand elle saisit les photos, une à une, quand elle les observa. Il la vit se figer quand elle referma d'une main tremblante les chemises cartonnées. Ce n'était pas une simple réaction de surprise, ni même un dégoût compréhensible face à des clichés morbides. Le visage de Leïli Mal s'était tétanisé dans un spasme de terreur, une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne ses esprits. Pétard s'excusa en récupérant les dossiers.
Je suis désolé de vous imposer cette épreuve, madame. Et nous n'avons encore aucune raison objective de penser que votre fille a commis ces crimes.
Profitant des formules de politesse aussi alambiquées qu'inattendues de Pétard, Julot repassa devant ses yeux la scène qui venait de se dérouler. L'expression de panique de Leïli Mal n'avait duré qu'un quart de seconde avant qu'elle ne la contrôle. Mais elle l'avait submergée à un moment précis. Pas lorsqu'elle avait baissé les yeux sur les photos des cadavres, ni même lorsqu'elle avait découvert les portraits de François Valioni et de Jean-Loup Courtois. Après. Juste après. Lorsqu'elle avait lu leurs noms sur le dossier. Comme si elle n'avait pas reconnu leur visage, mais qu'elle savait qui ils étaient. Pétard s'en était-il lui aussi rendu compte? Ou s'était-il laissé berner par l'émotion naturelle d'une femme face à deux clichés macabres? Julot éprouvait une certaine fierté à imaginer qu'il ait été le seul à repérer ce détail capital.
Commandant, fit Layli d'une voix calme, je ne suis pas idiote. Si vous pensiez que ma fille n'avait rien à voir avec ces meurtres, vous ne me montreriez pas ces photos. Mais vous faites fausse route. Ma fille possède un alibi pour la nuit d'hier.
Les flics s'observèrent. Ils attendaient que Layli déballe son jeu pour voir.
Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas où ma fille était entre 20h30 et minuit. Elle m'a affirmé qu'elle sortait au KFC avec une amie, mais je n'en ai aucune preuve. Par contre, à partir de minuit, ma fille se trouvait à l'hôtel Ibis, sur la zone d'activité Écopolis. C'est là que je travaille.
Pétard se gratta la tête. L'entretien prenait une tournure qu'il ne contrôlait plus.
Madame Mal, qu'est-ce que votre fille faisait là-bas à minuit?
Elle chantait.
Pardon?
Layli Mal hésita un peu avant de répondre. Ses mains se crispèrent sur les bandoulières de son sac.
Le plus simple est de contacter le gérant de l'hôtel, Ruben Liberos. Je me doute que vous n'allez pas croire une mère qui défend sa fille. Mais Monsieur Liberos vous confirmera tout.
Le commandant Tony Frediani prit la parole pour la première fois. Son accent marseillais accentuait l'ironie dans sa voix.
« Je suppose que votre fille ne poussait pas la chansonnette toute seule à minuit pour votre patron. Il doit y avoir d'autres témoins de sa sérénade. »«
Oui, » confirma Layli, « une dizaine. Peut-être davantage. »
Pétard sortit un mouchoir et s'épongea le front.
Il nota les coordonnées de l'hôtel Ibis, interrogea encore quelques minutes Layli Mal, pour la forme, puis la remercia. Elle avait à peine ramassé son sac que Julot se précipitait. « Je vous raccompagne !»
Il sortit du bureau en précédant Layli, évitant de se tourner vers ses deux collègues. Une fois seul dans le couloir, il prit soin de refermer la porte et s'adressa directement à Layli.
« Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. »
Il lui tendit sa carte professionnelle. Julot n'arrivait pas à analyser quel réflexe le poussait à agir ainsi.
« Si vous avez simplement besoin de parler de vos enfants, de ces deux hommes assassinés, de l'association où ils travaillaient, Vogelzug. »
Layli prit la carte. Le dévisagea longuement, comme pour jauger si elle pouvait lui faire confiance, puis s'éloigna sans dire un mot. Avant de pousser la porte du commissariat, elle chaussa des lunettes de soleil rouge vif ornées d'une rose écarlate dont les épines et les feuilles couraient le long des branches. Étrange femme. En la regardant sortir, aussi droite et fière qu'elle était entrée, aussi peu anéantie qu'une mère convoquée parce que son fils avait oublié de composter dans le tram, il comprit pourquoi il était à ce point persuadé que Bambi Mal, Bambi 13 et Faline 95 n'étaient qu'une seule et même femme. Pas seulement à cause d'une vague ressemblance sur une image vidéo. Cette intuition reposait sur cette détermination farouche qui transpirait de chaque geste, de chaque mot de Layli Mal, identique à celle de cette tueuse mystérieuse. Un instinct de survie, celui d'une rescapée. Comme si revenu de l'enfer, plus rien ne pouvait l'atteindre. Il poussa la porte du bureau quelques secondes plus tard.
« Alors ?» fit Tony avec une pointe d'impatience.
Julot n'eut pas le temps de répondre. Pétard le précéda. Visiblement, il attendait qu'ils soient réunis tous les trois pour dresser ses conclusions.
« Alors ?» commenta Pétard. C'est tout vu. Sa fille est notre cliente, aucun doute. La ressemblance entre les photos de sa petite Bambi et notre meurtrière est aveuglante. Et cerise sur le gâteau, cette femme connaissait le nom des deux victimes.
Julot se mordit les lèvres. Pétard avait lui aussi repéré la fugitive expression d'épouvante de Layli. Même s'il détestait le contraste entre le ton cynique de son commandant et la délicatesse avec laquelle il avait traité Layli Mal, il devait reconnaître qu'il était un sacré bon flic.
Sauf, continua Velika, qu'avec son alibi, on est dans un foutu merdier.
Il regarda sa montre.
On a 30 minutes pour foncer voir ce Ruben Liberos à l'Ibis. C'est à peine à 2 kilomètres.
Julot, toujours debout devant la porte, s'autorisa une réplique. « Si Leïli Mal connaissait les victimes, quel est le lien entre elle et Vogelzug ?» Tony Frediani redressa l'oreille au nom de Vogelzug. Pétard s'était déjà levé.
« Tu sous-entends quoi exactement ?»«
Nom de Dieu, patron, ça crève les yeux !» Leïli Mal s'est retrouvée sans papier en France pendant des années. Tout nous ramène à eux, les invisibles, les clandestins. Ces bracelets à leurs poignets que l'on trouve dans la poche de Valioni. Ces coquillages qui servaient de monnaie africaine. Alpha, le fils de Leïli, qui voulait jouer aux apprentis passeurs. Nous sommes ici, à Port-de-Bouc, dans la ville où fut fondée l'une des plus importantes associations d'aide aux réfugiés. Cette association où travaillaient François Valioni et Jean-Loup Courtois. Ici, ou à mi-chemin entre ce commissariat et cet hôtel Ibis, habite le grand patron de Vogelzug, Jourdain Blanc-Martin.
Pétard passa devant son adjoint et posa la main sur la poignée. On verra, gamin. On va d'abord trouver qui, et on s'occupera de pourquoi, ensuite.
Pétard ouvrit la porte. Tony Frediani évaluait avec attention la passe d'armes entre les deux collègues, sans intervenir. Julot insista.
Vous trouvez pas qu'on devrait rendre une petite visite à Jourdain Blanc-Martin ?
Le commandant était déjà parti. Avant de lui emboîter le pas, Julot le regarda s'éloigner, comme il l'avait fait pour Leïli Mal quelques minutes auparavant. Il venait de comprendre pourquoi il avait tendu à cette femme sa carte professionnelle sans en référer à son chef. Parce que Pétard ne lui avait pas posé les bonnes questions, ne l'avait pas interrogé sur son passé. Parce que s'il les avait posées, Leïli Mal ne lui aurait pas répondu. Parce que Leïli Mal avait peur de lui. Il sprinta pour rejoindre son supérieur. Parce que, et il crut sombrer dans une profonde schizophrénie lorsque son esprit formula cette hypothèse, Leïli, Bambi, et peut-être également Alpha, avait besoin de lui.